Céline Potier, bonjour.
Bonjour.
L'aéroport de Conakry, rebaptisé l'aéroport Ahmed Sékou Touré en décembre 2021. Est-ce que c'est le signe que la mémoire de Sékou Touré redevient un enjeu politique ?
Écoutez, je pense que la mémoire de Sékou Touré est un enjeu politique majeur dans la société guinéenne depuis 1984. Et cette décision donc, de rebaptiser l'aéroport de Conakry en 2021 a suscité des débats qui, en fait, n'étaient pas nouveaux et qui sont récurrents depuis 40 ans. Sékou Touré, c'est une personnalité historique et centrale dans l'histoire de la Guinée. Il est à la fois le leader de l'indépendance, le père de la nation, mais on pourrait dire que c'est un père un peu problématique parce que beaucoup lui reprochent le caractère autoritaire, répressif de son régime. Et donc, par conséquent, les mémoires qui entoure sont très clivés, très binaires. On est soit pour, soit contre Sékou Touré.
D'où les réactions très diverses après ce changement de nom à l'aéroport en 2021. On se souvient que beaucoup ont applaudi alors que beaucoup d'autres ont protesté.
Oui, d'un côté, il y a certains qui voient en lui un héros national qui a cristallisé les idéaux d'une époque. Pour eux, c'est une figure qui est un symbole glorieux de l'histoire de la Guinée et donc il ne faut pas ternir. Et de l'autre côté, c'est l'image complètement inverse, c'est-à-dire celle d'un tyran qui a précisément trahi et déçu ses idéaux des indépendances.
Alors la première rupture avec la France, c'est le 25 août 1958, quand Sékou Touré affronte le général de Gaulle à Conakry. Dans quel passé a-t-il puisé cette force de caractère qui, ce jour-là, lui donne le courage d'affronter de Gaulle ?
Oui, c'est vrai que Sékou Touré, c'est vraiment un symbole, une figure de l'anticolonialisme. Ça, c'est le point qui fait en général consensus. Il s'est engagé assez jeune, pendant sa vingtaine, dans la lutte syndicale et politique. Et ce qui fait sa particularité, à la différence d'autres leaders africains, c'est qu'il n'a pas été formé dans les grandes écoles coloniales ouest-africaines, telle que l'école William Ponty ou en métropole. C'est un autodidacte qui s'est formé par le syndicalisme et par ses propres lectures. Donc il puise d'abord dans son passé de syndicaliste. À la tête de l'Union des syndicats de Guinée, il mène plusieurs grèves au début des années 50 qui sont couronnées de succès. Donc il a une popularité importante auprès des Guinéens parce qu'il a réussi à obtenir des augmentations de salaire. Et puis parallèlement, il s'engage donc au Rassemblement démocratique africain de Guinée, mais dont il ne prend la direction qu'en 1952, pas d'emblée. Et ça a été un moment difficile pour le RDA de Guinée, la période entre 1947 et 1952. Il a fallu beaucoup de ténacité à ce moment-là aux militants de ce parti pour traverser cette période. Alors à partir de 1956, là, Sékou Touré et ses compagnons vont voler de succès en succès électoraux parce que leur stratégie qui a été de mobiliser patiemment les populations au sein de leur parti, alors que ces populations gagnent le droit de vote de manière progressive, va vraiment très bien fonctionner. Leur stratégie est une réussite. Et donc, au moment du discours du 25 août, il est déjà d'une certaine manière aux manettes du territoire. Il a déjà une grande partie de la population derrière lui avec le Parti démocratique de Guinée. Mais ce qu'il cherche à faire ce jour-là, ça n'est pas tant un discours de rupture, en tout cas dans le contenu du texte. Ce qu'il cherche vraiment à faire, c'est à essayer de redéfinir encore le projet de communauté française qui va être proposé au référendum du 28 septembre. Et dans son discours, donc, il insiste sur la notion de dignité, puis c'est là qu'il lance cette phrase célèbre, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage, qui va devenir vraiment célèbre et qui symbolise la rupture. Mais quand on regarde vraiment le discours de près, il recherche à ce moment-là encore à négocier les termes de cette communauté française.
Alors justement, un mois plus tard, c'est le référendum du 28 septembre 1958 par lequel la Guinée dit non à la France. Est-ce que la rupture qui s'ensuit est le fait de Sékou Touré ou de Gaulle ?
Alors je dirais que d'abord, le 28 septembre, c'est quand même le vote des Guinéens et des Guinéennes qui votent dans une écrasante majorité pour le non. Donc il n'est pas seul à faire ce choix, il est suivi par les populations et puis par de nombreux militants de son parti et aussi les étudiants qui ont poussé en faveur de ce choix. Mais il est clair que la France aura une réaction intransigeante. Charles de Gaulle avait déjà annoncé à l'été 58 que ce serait faire sécession. Et puis le 25 août, il dit que la France ne fera pas d'obstacle mais en tirera les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, la France se réserve de coopérer ou non avec les territoires qui vont voter non. Et après la déclaration d'indépendance, il y aura un retrait de presque l'ensemble des fonctionnaires français, des tentatives pour essayer de freiner la reconnaissance de la Guinée à l'ONU. Donc la France, clairement, ne veut pas faciliter la tâche à la Guinée, veut donner des gages aussi aux autres territoires qui sont entrés dans la communauté, afin d'éviter que le cas guinéen ne fasse tache d'huile. Il y a bien sûr aussi les préoccupations de guerre froide. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que la rupture, elle n'a pas été immédiate ni totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rupture des relations diplomatiques le 2 octobre 1958. Ces relations s'établissent. Il y a des ambassadeurs français en Guinée, des ambassadeurs guinéens en France. Les négociations ne sont pas aisées, mais elles se poursuivent. Des accords de coopération sont signés en 1963. Et c'est finalement plus tard que la Guinée va aller à la rupture en 1965. Je pense quand même que ce qui est le plus important dans ces deux dates-là, du 25 août et du 28 septembre, c'est le moment où se noue symboliquement le lien d'incarnation entre la figure de Sékou Touré et la communauté nationale.
Et est-ce qu'on peut dire qu'entre ces deux dates, De Gaulle a manqué de sens politique et s'est laissé conduire par son orgueil ?
Ah, il y a une dimension psychologique, évidemment, de cet événement. Je crois que les deux hommes n'avaient pas très bien compris ni l'un ni l'autre à qui ils avaient affaire. Est-ce qu'il a manqué de sens politique du point de vue de la partition qu'il avait à jouer, c'est-à-dire d'essayer de faire marcher la communauté française ? Peut-être pas. En tout cas, la Guinée a cherché aussi à entrer en relation, a cherché quand même à obtenir des négociations avec la France juste après la déclaration d'indépendance. Donc voilà, c'est une période de transition et d'hésitation. La France va être assez intransigeante.
De Gaulle a manqué de souplesse, en tout cas, c'est sûr, non ?
Ah, de souplesse, c'est sûr, oui.
Et de sens politique ?
Ça dépend des intérêts que vous défendez, vous voyez.
Voulez-vous dire que s'il avait cédé aux propositions de négociation de Sékou Touré, cela aurait remis en cause tout le projet de communauté française ?
Ce n'est pas certain que ça aurait remis en cause l'ensemble du projet de communauté française. D'ailleurs, un an plus tard, en fait, les autres territoires vont avoir l'indépendance. Mais disons que stratégiquement, vis-à-vis des autres partenaires, il n'aurait pas été très heureux d'accorder à la Guinée une place qui aurait été la même que ceux qui étaient entrés dans la communauté. Ça, c'est le point de vue du général de Gaulle.
Alors, à partir de cette rupture de 1958, Sékou Touré et Kwame Nkrumah décident d'unir les destins de leurs deux pays, la Guinée et le Ghana. Est-ce que le panafricanisme de Sékou Touré, c'était une vraie entreprise visionnaire ou une posture sans lendemain ?
Alors c'est sûr que Sékou Touré, il a soigné son image de chantre du panafricanisme, qui est aussi un idéal central de l'époque. Je ne sais pas s'il est visionnaire, en tout cas il est représentatif de l'époque. Et donc au tournant de l'indépendance, après le 2 octobre, avec d'autres, avec ses émissaires, parmi lesquels notamment Diallo Telli, il va jouer un rôle important pour tenter des rapprochements avec des nouveaux États africains. Et là, l'union Ghana-Guinée qui est nouée donc, dès novembre 1958, c'est vraiment juste après l'indépendance, elle joue un rôle important symboliquement. Elle n'aura pas tellement d'effets concrets, mais elle joue un rôle important symboliquement parce que ça dépasse les ex-frontières impériales. C'est un pays anglophone avec un pays francophone qui s'unissent et qui se veulent un embryon des États-Unis d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est un Guinéen, Diallo Telli, qui va être secrétaire général de l'OIA. Donc, il y a une vraie action panafricaine au moment de l'indépendance. Sékou Touré va aussi accueillir sur son territoire des militants panafricains comme Stokely Carmichael, par exemple, ou Myriam Makeba. Mais dans la suite de l'histoire, il y a eu quand même des tensions, des contradictions dans la politique panafricaine de Sékou Touré, notamment le fait que du milieu des années 60 au milieu des années 70, il ne va pas se rendre aux réunions de l'OIA, il va être dans une attitude de repli parce qu'il est en désaccord avec beaucoup de ses voisins africains.
Avec la Première République et le parti-État PDG, Parti démocratique de Guinée, Sékou Touré a eu l'ambition de transformer la société guinéenne. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?
Ce programme de transformation de la société, je pense qu'il est important d'en retenir, c'est que l'idée était de moderniser la société, mais sans être une copie servile de modèles venus d'ailleurs, même en ce qui concerne le socialisme. Donc l'idée, c'était à la fois de moderniser la société, mais de retourner aux sources africaines, ce que dans le vocabulaire de l'époque, on appelait la politique d'authenticité. Et je pense que c'est un des éléments qui tenait le plus à cœur à Sékou Touré, l'entreprise de décolonisation complète des esprits. Alors de ce point de vue-là, ce qui est en général mis au crédit de la révolution guinéenne, ce sont les politiques culturelles et sportives qui ont été menées à cette époque et qui ont servi de vitrine au régime, qui ont contribué à forger la fierté nationale. Par exemple, les succès de la musique guinéenne, des orchestres guinéens comme le Bembeya Jazz National, des équipes de football, et qui sont encore aujourd'hui souvent invoqués comme des précurseurs inspirants ou des motifs de fierté. Il y a, par exemple, chez certains artistes, la nostalgie d'une époque où la culture était vraiment prise en charge par l'État. Mais de manière plus générale, je pense que la révolution guinéenne, ça a été une expérience qui était profondément ambiguë. D'un côté de la fierté, de l'autre de la meurtrissure, d'un côté de l'enthousiasme pour certains grands idéaux, et puis de l'autre de la peur, des violences politiques. Voilà, donc c'est une expérience qui est ambivalente.
La répression que pratique le régime de Sékou Touré à partir de 1970 et de l'opération militaire portugaise sur Conakry, est-ce que c'est seulement la faute à cette opération commando venue du Portugal ?
Je pense qu'avec cette question, là, vous abordez la part sombre justement du personnage, la question des violences politiques. En fait, Sékou Touré va instaurer un régime de parti unique après l'indépendance. Ça, c'est pas très original par rapport aux autres pays africains, mais il y a quand même un contrôle étroit de l'information, un encadrement de la population dans les structures du parti, contrôle du commerce privé, etc. Et dès l'indépendance, Sékou Touré craint vraiment les manœuvres de déstabilisation extérieure ou intérieure. Et cette peur ne va faire que grandir au cours des années 60, hein, alors qu'il assiste dans un contexte international à la destitution de ses homologues qui sont proches de lui politiquement, comme par exemple Kwame Nkrumah au Ghana ou Modibo Keïta au Mali. Et donc, une de ses stratégies va être d'utiliser la rhétorique du complot pour dénoncer des menaces extérieures ou intérieures, qu'elles soient bien réelles comme c'est avéré en avril 1960 ou en novembre 1970 avec l'opération Mer Verdée que vous invoquez, ou qu'elle soit supposée. Et donc cette dénonciation de complot s'accompagne à chaque fois de violences politiques, arrestations, tortures, détentions dans des conditions très difficiles, exécutions extrajudiciaires. Cette part sombre du personnage et de son régime est symbolisée par la prison du Camboiro qui est installée dans Conakry. Donc dans la dénonciation de ces complots, bien sûr il y a des enjeux internationaux, mais il y a aussi des enjeux de politique intérieure, et je crois que l'histoire de ces enjeux, elle est en train de s'écrire, elle commence à être bien connue pour avril 1960, pour le complot dit des enseignants de 1961, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre les ressorts de ces complots, de ces dits complots dans les années 60-70.
Le lieu de supplice le plus connu, vous l'avez dit, hein, Céline Potier, c'est le camp Boiro à Conakry. Au moins 5000 prisonniers y sont morts sous la torture. L'une de ces tortures, c'était l'absence d'eau et de nourriture. Diallo, Telli et bien d'autres sont littéralement mort de faim et de soif. Est-ce qu'on peut dire que Sékou Touré a assumé ce régime de terreur ?
Oui, je pense qu'il a assumé cette politique puisque le régime a fait publicité de la répression politique puisque les arrestations étaient rendues publiques à la radio et dans le journal. Certaines exécutions ont été publiques également, notamment en janvier 1971. Donc oui, il y a une justification par l'idée de patrie en danger du recours à la violence chez Sékou Touré. De ce point de vue-là, elle est assumée.
Et il assume que la révolution se radicalise. C'est comparable à ce qui se passe dans la France de la révolution jacobine de 1793 ?
Oui, je pense qu'on pourrait mener des comparaisons. En tout cas, je pense qu'il y a des échos, comme dans tout processus révolutionnaire, sur cette question de la violence révolutionnaire et de la légitimité ou non d'y avoir recours. En tout cas, ce régime n'a pas cherché à cacher cette répression politique. Au contraire, elle l'a mis en avant pour essayer de justifier la véracité des complots.
Céline Potier, merci.